Vous écoutez
RMC.
Vendredi 25 novembre,
l'info sur RMC.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story, le journal. Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Lire, compter, 20% des élèves de 6e ont des difficultés. Le niveau des collégiens inquiète. Quel progrès dans la prise en charge des victimes? On se pose la question cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous irons aussi à Doha en direct. Les Bleus se préparent à affronter dans 24 heures les Danois, adversaires redoutés.
Un constat alarmant ce matin, 20% des élèves de 6e n'ont pas le niveau.
Des élèves en difficulté, voire en très grande difficulté scolaire. L'éducation nationale dévoile aujourd'hui les résultats des dernières évaluations pour l'élémentaire et le collège. Les bases en mathématiques et en français ne sont pas acquises. Reportage RMC dans une école près de Lyon. Vincent Chevalier, Siam Spencer.
Quelques mois après sa rentrée en 6e, Samuel rencontre toujours quelques difficultés en cours.
Parfois en français, des fois en histoire.
Certains exercices posent plus problème que d'autres.
La rédaction, tout ce qui est écriture orthographe.
Pour Géraldine, sa maman, l'école primaire ne lui a pas forcément permis d'être prêt pour le collège.
Les exigences, l'entraînement, notamment en français, la rédaction, notamment à la discipline aussi en classe, à l'attention et au travail à la maison.
Des parents sont donc obligés de faire aider leur enfant comme Soigny pour sa fille de 12 ans.
Les orthophonistes, les aides aux devoirs que le collège propose, là, ça va mieux, mais il y a eu besoin, oui. Pendant 3 ans.
Impossible de tout mettre sur le dos des écoles élémentaires qui manquent cruellement de moyens, selon Benjamin Grandener, directeur d'établissement, co-secrétaire du syndicat SNUIPP-FSU dans le Rhône.
Tous les enfants n'ont pas droit à toutes les heures d'école auxquelles ils ont droit parce qu'on manque de remplaçants. On avait des dispositifs d'aide aux élèves les plus en difficulté qui sont fortement abîmés, donc on est tout le temps en train de choisir les élèves qui vont être aidés et ceux qui ne vont pas pouvoir l'être.
Si les évaluations ne sont pas bonnes depuis plusieurs années, tous les intervenants sont d'accord. La crise du Covid a considérablement impacter le niveau des élèves.
Après l'effroi, l'émotion, l'hommage à Vanessa une semaine après son meurtre à Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Cette jeune fille de 14 ans enlevée, violée puis tuée par un automobiliste près de son collège. Sa famille organise une marche blanche en fin d'après-midi, juste avant une messe a été prévue dans l'église de la commune. Le père Philippe Allouin a préparé ce moment avec les parents. Il témoigne sur RMC ce matin.
Ce sont des parents latino-américains. La maman est de Colombie, son compagnon du Pérou. Et la foi est très importante pour eux. Ils ont besoin de prier. Et c'est eux qui ont bien choisi les textes que nous entendrons à la messe. Et la prière, c'est eux qui l'ont écrite avec leurs propres mots, en espagnol, et on la traduira en français.
Et je vous le rappelle, le meurtrier de Vanessa est en prison, mis en examen pour viol et meurtre, meurtrier présumé. Dans ce contexte, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, plus de 100 féminicides recensés par les associations depuis le début de l'année. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Dijon aux côtés des gendarmes en formation sur la prise en charge des victimes. L'Élysée met en avant d'importants progrès sur le terrain. C'est moins évident, Lucille Pascanet.
Une meilleure formation des agents, plus de places en hébergement d'urgence, plus de téléphones grave danger. Autant d'avancées notables pour Pauline Soubienine, avocate spécialiste des violences faites aux femmes. Mais il y a encore du chemin à faire.
Dans les faits, on n'y est pas encore. Ça commence au dépôt de plainte. Pas plus tard qu'un mois, une de mes clientes, pour un fait de viol conjugal, on lui a posé la question de savoir si elle avait joui. Un autre exemple, ça arrive encore en commissariat, où en fait on traite les femmes de menteuses alors qu'elles viennent déposer des plaintes pour des faits de violences conjugales.
Des progrès restent donc nécessaires, notamment face aux violences intrafamiliales. Dans plus d'un tiers des cas, violences conjugales riment avec maltraitance sur les enfants, selon un sondage de Solidarité Femmes. Françoise Brier dirige cette association.
À partir du moment où il y a des violences conjugales, on doit immédiatement sécuriser la femme, mais aussi les enfants, parce que les auteurs de violences utilisent des enfants pour poursuivre leur violence. Et donc, c'est extrêmement important, voilà, d'avoir des décisions pour l'exercice de l'autorité parentale qui soient exclusives pour la victime.
Elle préconise aussi, entre autres, la création d'un tribunal spécialisé pour mieux protéger les femmes et des séances de prévention à l'école.
La route est encore longue, mais parfois ça s'accélère. Hier, une première victoire pour les femmes françaises. L'Assemblée nationale a voté à une large majorité l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Proposition des Insoumis. Débat nettement moins respectueux durant la nuit. Menaces, insultes autour d'une autre proposition de la France insoumise. Le retour des soignants non vaccinés. Séance suspendue hier soir. L'opposition accuse les macronistes d'avoir empêché le vote du texte.
RMC. Coupe du Monde 2022.
Demain, les Bleus affrontent le Danemark. Rendez-vous à l'heure du goûter, ça sera à 17h. Dernière mise en place, ça devrait d'ailleurs bouger en défense avec le retour attendu de Raphaël Varane en charnière centrale. Loïc Braillet en direct depuis Doha pour RMC. Loïc, il faudra que les Bleus soient solides face aux Danois qui nous ont embêtés plus d'une fois sur les dernières confrontations.
Oui, le Danemark est devenu au fil du temps le grand rival des Bleus qu'ils croisent très souvent au premier tour d'une phase finale, notamment de Coupe du Monde. Ça a été le cas en 98 en France, en 2002 en Corée du Sud, mais aussi il y a 4 ans en Russie. Et donc demain, au Qatar, les Bleus n'aiment pas affronter les Danois contre qui ils ont toujours du mal. Les deux derniers matchs cette année, 2 défaites. Il y a 4 ans en Russie, match nul, 0-0. Il faut remonter à l'Euro 2000 pour retrouver une victoire française en compétition officielle. Les Bleus avaient fini par gagner la compétition sur le même schéma d'ailleurs qu'en 2018. C'est donc une sorte de bête noire que vont défier les hommes de Deschamps, qui restent malgré tout détendus. Cela s'est vu hier lorsqu'ils ont reçu la visite de leur famille dans leur camp de base. Un groupe soudé qui baigne dans une bonne ambiance où de nouvelles affinités se dessinent, mais un groupe bien conscient qu'il s'agit demain d'un tournant qui peut lui offrir la qualification pour les huitièmes de finale.
Loïc, on se pose aussi cette question ce matin, comment va Neymar, surtout comment va sa cheville, la star brésilienne qui s'est blessée sur un tacle d'un défenseur serbe hier durant le match contre la Serbie, a fini en pleurs sur un banc. Le Brésil retient maintenant son souffle, le compte à rebours a commencé avant le prochain match du Brésil lundi prochain, ça sera face à la Suisse. Aujourd'hui, la deuxième journée de la phase de groupe commence ce matin à 11h avec le Pays de Galles contre l'Iran. Les supporters iraniens qui profitent de la compétition pour afficher leur soutien aux manifestantes pour la liberté durement réprimée dans leur pays. Martin Bourdin les a rencontrés à Doha pour RMC.
Sur son maillot rouge de l'Iran, Mehdi a écrit un slogan au marqueur noir en anglais et en arabe, Woman Life Freedom, liberté de vie des femmes.
Je suis là pour mon pays, pas pour mon équipe de foot.
Il est l'un des rares Iraniens vivant encore au pays qui accepte de s'exprimer.
Notre gouvernement n'aime pas trop qu'on soit là pour être la voix de notre peuple. Je ne sais pas si je pourrais rentrer au pays facilement.
Les voix des protestataires sont donc pour la plupart celles d'Iraniens expatriés.
Ici, le monde entier nous entend. En Iran, les gens tentent de se faire entendre, mais ils sont tués. Donc nous sommes leur voix ici.
Avant chaque match de l'Iran, ils marchent autour du stade avec des photos de victimes de la répression. Et une fois dans les tribunes...
Après les hymnes nationaux, on crie « Liberté de vie des femmes » 5 fois. Et à la 22e minute, on chante notre nom de code « Mahsa Amini ».
Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans dont la mort en septembre a déclenché cette vague de protestation en Iran. Le t-shirt noir de cette femme lui rend hommage.
J'aurai toujours l'espoir d'obtenir une vie meilleure. Plus de liberté pour les femmes, les enfants, il s'agit de nos vies.
Ce ne sont donc pas les quelques drapeaux symboles de cette opposition confisqués à l'entrée du stade lors du premier match qui vont entamer leur détermination.
Le Qatar qui s'est d'ailleurs abstenu hier dans un vote à l'ONU contre la répression en Iran. Et puis ce volte-face de la Fédération Internationale de Football, la FIFA va désormais autoriser les drapeaux arc-en-ciel dans les stades du Mondial, signe de soutien à la communauté LGBTQI+, décision prise sous pression de plusieurs fédérations qui menaçaient d'attaquer l'instance en justice.
C'était le journal de Marguerite Dumont, il est 8h07 et ne manquez pas demain, évidemment, cette journée spéciale sur RMC, les Bleus qui jouent à 17h, journée spéciale dès la matinale week-end de Mathieu Rouault. Il est 8h07.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Arnaque ou bon plan? Que valent les réductions du Black Friday? Faut-il en profiter pour faire ses achats de Noël de manière anticipée? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre dans un instant toutes les réponses et les bons plans de Rodolphe Bonas? Il est spécialiste de la grande distribution.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h11 sur RMC. Belle matinée à tous.
Le parti pris.
Arnaque ou bon plan? Bonjour Rodolphe Bonas, vous êtes spécialiste de la grande distribution et de la consommation. On va parler Black Friday, c'est aujourd'hui très officiellement, même si dans un certain nombre de commerces ça a commencé déjà il y a quelques jours et que ça s'étale un peu. Du point de vue du consommateur, je voudrais vraiment qu'on soit très pratique et qu'on accompagne tous ceux qui nous écoutent. Quand on voit l'inflation, on est encore à 6,2% sur un an en octobre. Est-ce que les réductions du Black Friday sont un bon plan?
Oui. Oui, c'est un bon plan. C'est une période promotionnelle, mais qui est particulièrement active. Savoir que c'est quasiment la deuxième période la plus forte de l'année, c'est-à-dire c'est celle où on va trouver les prix les plus intéressants. Alors après, il y a deux périodes en France qui sont un petit peu hors contexte, j'allais dire, qui sont les soldes, puisque ce sont ces périodes dans lesquelles les commerçants sont autorisés à vendre leurs produits en dessous de leur prix d'achat. Donc
à perte.
À perte, exactement. Là, pendant le Black Friday, c'est une période promotionnelle traditionnelle. Donc
mais ça ne va pas jusqu'à vendre à perte.
Jamais.
Donc c'est interdit. Ça va être une grosse promotion,
voilà.
Mais les soldes gardent cette spécificité.
Exactement.
C'est les meilleurs prix absolus.
Voilà.
Ça reste les soldes. Rodolphe Bonas, au départ, c'était censé être uniquement en ligne. Pour des promotions en ligne, c'est plus du tout le cas.
Non, plus du tout le cas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant cette période promotionnelle dans notre métier. Pourquoi ? Parce que en fait, elle s'est installée progressivement. On a vu le Black Friday arriver
il y a un peu. Au début, on s'est dit c'est un truc américain.
Exactement,
rien.
Exactement, à peu près une dizaine d'années, on a vu quelques commerçants le faire. Puis un peu plus, et tout le monde s'est bien dit ici en France que c'était intéressant. Je veux juste vous donner un petit éclairage. Si on remonte encore quelques années en arrière, on se souvient que certains commerçants avaient essayé d'installer les fameux, vous savez, la fête des citrouilles aux États-Unis, comment ça s'appelle ?
Halloween,
voilà. Eh bien, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas pris, ils ont essayé, ils ont tout fait, ils ont investi, mais les Français n'y ont pas cru. Le Black Friday, les Français jouent la carte du Black Friday.
Ils jouent la carte et ils y croient. Patrick est à Lyon, qui nous appelle. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Apolline.
Vous y croyez, vous, au Black Friday ?
Non, j'y crois pas du tout. Non.
C'est comme les citrouilles qui se transforment en carrosses.
Et voilà,
exactement. Ouais.
D'accord.
Non, mais en fait, parce que en fait, j'ai adopté un petit peu le principe de sobriété, mine de rien. Ça fait quelques années déjà, et je consomme ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Je vais pas chercher midi à 14h, essayer d'avoir une télé un petit peu plus grande, d'essayer d'avoir un téléphone un petit peu plus puissant, d'essayer d'avoir un ordinateur. Non.
Sobriété. Vous ne cédez pas aux sirènes de la consommation. Bah. Vous avez anticipé en quelque sorte notre époque, parce que je pense, Patrick, chez vous, on le sent, ça a été, c'est presque, j'imagine que c'est pour des raisons à la fois économiques, mais aussi c'est devenu presque une philosophie de vie.
Non, oui. Bon, je gagne assez bien ma vie, donc j'ai pas de problème économique, mais c'est plus une philosophie de vie, en effet, ouais. Je pense que, il faut
la sobriété. Aujourd'hui, cette sobriété, elle s'est imposée, on peut le dire, à un grand nombre de Français, d'abord parce que les prix ont augmenté. Emmanuel Macron lui-même disait que c'est la fin de l'abondance pour ceux qui en avaient encore un peu. Mais ce que dit Patrick, et c'est là-dessus que je voudrais que vous réagissiez, Rodolphe Bonas, c'est que, au fond, le Black Friday, certes, il est rentré dans les mœurs, en quelque sorte, mais il a cette suspicion de « on va nous faire acheter des trucs dont on n'a pas besoin ».
Alors. En fait, au départ, la promesse, c'est d'essayer de préparer Noël. Hein. En gros, c'est ça l'idée, c'est d'essayer de dire, attendez, Noël approche, essayez de profiter de cette période qui est un petit peu spécifique, dans laquelle vous pouvez préparer vos achats et surtout acheter des produits qui risquent d'être en rupture à Noël. Vous savez, ces fameux produits dits de collection. Le calcul commercialement est assez intéressant parce que les études démontrent que les consommateurs, à l'inverse de Patrick, mais les consommateurs qui achètent des produits en préparation de Noël à Black Friday, ben qu'est-ce qu'ils font ? Ils finissent quand même par acheter des produits à Noël. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent.
Ça se rajoute en fait.
Oui, ça se rajoute. Ouais. C'est-à-dire qu'ils en achètent un peu plus. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis juste donner un éclairage de l'autre côté, c'est-à-dire que pour les commerçants et les industriels, c'est aussi le moyen aussi de tester et d'évaluer qu'est-ce qui va vraiment se vendre à Noël. C'est-à-dire que le Black Friday, parfois certains commerçants jouent la rupture et disent oulala, cette référence, elle va vraiment tourner. Il faut que j'en recommande celle-ci.
Ils sentent ce qui monte ou ce qui monte
pas comme
produit.
Exactement.
Véronique nous disait tout à l'heure, elle nous appelait, elle est commerçante à Blois, et elle nous disait que pour elle, c'était vraiment une journée très importante, y compris donc dans le marché d'une boutique de prêt-à-porter. Romain nous appelle également d'Auvergne. Vous êtes à Chanonat. Bonjour Romain.
Bonjour.
Romain qui est infirmier libéral donc en Auvergne. Est-ce que vous, ça vous intéresse et est-ce que le Black Friday, vous l'attendiez ?
Bah, écoutez, non, je ne l'attendais pas particulièrement. Ça m'intéresse parce que c'est des promotions et que honnêtement c'est vrai qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Maintenant, c'est ce que je voulais dire, c'est que la sobriété économique, en fait, c'est pas incompatible avec le Black Friday en vérité. Parce que moi, j'aime bien la sobriété économique aussi, mais bon, j'ai des cadeaux de Noël à faire, donc
oui, c'est ça.
Donc autant les acheter maintenant que plus tard. Ma liste de Noël, elle est déjà faite depuis un mois. Donc
vous avez prévu déjà des achats là, Romain ? Vous savez ce que vous allez acheter aujourd'hui ? Vous allez acheter quoi ?
Moi, j'en ai déjà fait là, sur la semaine parce que ça dure 72 jours là, maintenant. Donc j'en ai déjà fait. J'en ferai peut-être aujourd'hui. Enfin bon, voilà, j'ai des trucs à acheter.
Dites-nous quoi, Romain, qu'on comprenne.
Ah quoi écoutez, j'avais un petit mixeur à acheter.
Un petit mixeur. Ok.
Moitié prix que je l'aurais acheté la semaine d'avant. J'ai des cadeaux de Noël à faire. J'ai acheté un petit pour la petite. J'ai des cadeaux de Noël classiques quoi. D'accord. Et puis je donnais les idées cadeaux de mes petits à mes parents, à mes beaux-parents, etc. Comme ça, tout le monde.
Comme ça, tout le monde en profite pour les acheter maintenant, quoi.
Après, ils achètent quand ils veulent, en soi. Après, bon.
Oui, vous mettez pas la pression sur le Père Noël.
C'est ça. Ouais. Je voulais faire une différence quand même entre les soldes et le Black Friday. Parce que certes, les soldes sont plus intéressants, mais si vous passez pas sous le rideau de fer à la première minute de l'ouverture, vous avez ni la taille, ni la référence. Hein.
Donc, oui, il y a quand même une grosse pression.
Chaque fois que je vais dans les soldes, moi, ce que je trouve, c'est que je mets en solde. Donc, je préfère le Black Friday en soi.
Ouais. Donc, le mixeur de Romain, c'était les boutiques achats ce matin sur, dans Apolline Matin. Un dernier mot avec vous, Rodolphe Bonas. Donc, on a le Black Friday. On va avoir Noël, on va avoir les soldes en janvier. Est-ce que les soldes, ça marche encore en France?
Alors, de moins en moins. C'est plus compliqué pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'avant-soldes, ces fameuses périodes de promotion, des logiques de promotion ciblée, c'est-à-dire, vous savez...
Véronique, elle nous disait, je fais des journées privées de vente privée en décembre.
Exactement, voilà. Donc ça vient... Et puis ensuite, il faut rappeler que les soldes, c'est aussi la mise en super-vente de ce qui n'est pas vendu. Donc en fait, vous ne trouvez pas forcément vos tailles, vos coloris ou bien le
C'est ce que nous disait Patrick. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, de toutes ces explications. Vous qui êtes donc spécialiste de la grande distribution et de la consommation. Il est 8h18, Arnaud Demange nous rejoint.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche,
8h18 sur RMC. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous. Dites donc, j'ai eu très très peur hier. Je regardais la Coupe du Monde, j'ai eu peur pour notre Jeannot Rességuier.
Notre Jeannot.
Notre commentateur sportif de chez nous. Je lisais les compositions pour le match Corée du Sud-Uruguay. Alors, dans les buts, il y avait Kim. Latéral droit, Kim. Défense centrale à droite, Kim. À gauche, Kim. Et latéral gauche, Kim. Ça faisait Kim, 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 Kim. Je me suis dit, s'il veut commenter ça, le pauvre, s'il veut être précis, il va galérer. Ça va donner un truc du genre... Kim qui passe à Kim, qui remet à Kim, qui transmet vers Kim, alors qu'on aperçoit dans les tribunes Kim Kardashian, Kim Basinger et Kim Glow. Ah, on voit Kim, Kim, Kim et Kim qui combinent bien. Remarquez, quelque part, ça aurait été plus simple pour lui.
Kim alors... On imagine un peu notre Jeannot qui tente de crier Kim, qui marque un but.
Chez les Bleus, on joue samedi contre le Danemark avec cette grande question. Quel joueur va se blesser cette fois-ci? Tirage au sort.
Bonjour, bienvenue dans ce grand tirage au sort spécial France-Danemark. Bonsoir, je suis Jean-Pierre Foucault, je suis toujours pas imité. Alors, quel joueur va se blesser ce soir? Tout de suite, le numéro 8, le numéro 11 et le numéro complémentaire, le 3. Ça nous fait donc 3 blessés. Est-ce qu'on a un gagnant ce soir? Eh bien, Astrala, ça va être le Danemark. Hein. C'est pas Didier Deschamps, en tout cas.
Arnaud, aujourd'hui, c'est le Black Friday.
Oui, c'est les grosses promos, c'est le vendredi noir.
Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir.
Non, il n'y a plus d'argent. Il y a plus d'argent. On est le dernier vendredi de novembre, Apolline. À qui il reste de la thune? Alors en ce moment, il y a moins 200 euros sur les télés, moins 200 euros sur les téléphones. À une période, il y a déjà moins 200 euros sur nos comptes en banque. Ça va pas le faire. Vous connaissez le principe du Black Friday. Vous n'avez plus d'argent, on vous propose d'acheter des trucs quand même, en vous faisant croire qu'hier c'était plus cher, alors que c'est pas vrai. Hein, c'est le même prix qu'avant, on a juste collé une étiquette avec écrit 3000 euros barré en rouge au-dessus du prix normal, qui est 39,90 €.
Bien sûr.
Comme ça, on a l'impression d'avoir fait une bonne affaire. C'est l'arnaque, Johanna, vous aurez plein de trucs à raconter dans RMC s'engage pour vous, il y aura plein de sujets de chronique. Ils font des promos sur les écrans plats à 3000 euros, mais ils devraient faire des vrais Black Friday sur la bouffe et l'essence. Voilà. Ça serait utile. Alors à la base, le Black Friday, c'était juste le vendredi. Vous, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 8 jours que c'est le Black Friday. Ça n'a plus aucun sens, c'est devenu la Black Week. Et on sait très bien que c'est de l'arnaque encore une fois. Cette année, c'était même l'année noire, on était en pleine Black hier. Et tout a augmenté, donc ça ne marche pas.
Aymeric Caron, qui a retiré son texte sur la corrida hier à la place des Insoumis, ont proposé un texte pour réintégrer les soignants non vaccinés.
Oui, on est passé d'un débat sur des grosses aiguilles à un débat sur des petites aiguilles. Très très gros débat, les soignants non vaccinés. Ça a été houleux, vous avez regardé les séances à l'Assemblée. On a été jusqu'à...
Tu vas la fermer.
Ah non.
Simple, concis, efficace,
non.
Ferme ta gueule.
Non.
Ça bardait. Se vacciner, alors c'est évidemment très conflictuel. Se vacciner, c'est un choix, mais c'est aussi une précaution sanitaire. Et c'est vrai qu'on attend que les médecins soient irréprochables sur les précautions sanitaires. Si votre généraliste vous fait un toucher rectal, vous attendez qu'il se lave les mains avant un examen de la bouche. C'est normal. C'est pas rassurant pour le patient, quoi. de soigner en étant potentiellement malade. Non mais Manu, si un chirurgien cardiaque a la maladie de
pauvre
Parkinson,
Manu. Pourquoi ça tombe sur Manu?
Vous y allez pas? Non mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Tiens, les filles, si votre gynécologue a la lèpre, bon bah voilà, à la sortie vous vérifiez qu'il n'y a pas un doigt qui est tombé à l'intérieur pendant l'examen.
Et bon petit déj à tous.
Allez, bon appétit. Non mais vous comptez les doigts à la sortie, c'est normal, on a envie d'être assuré.
L'Europe, Arnaud, qui fait face à une augmentation massive de cocaïne. La presse alerte à ce sujet. Les ports belges en saisissent tellement qu'ils n'arrivent plus à les détruire.
Oui, on en est à 90 tonnes de cocaïne saisies dans le port d'Anvers. Rendez-vous compte, c'est presque la totalité de la consommation de drogue de tous ces 8 en une semaine. C'est-à-dire que c'est considérable. Alors évidemment, Frédéric Becbédé et Benoît Magimel se sont déjà proposés pour évacuer toute cette cocaïne.
C'est rien, pas qu'on peut faire plaisir, puis ça débarrasse.
C'est gentil. Alors, comment on détruit la cocaïne? Instinctivement, moi je me disais, on la vide dans une canalisation. Mais non, parce que c'est un risque de la retrouver dans l'eau courante. Ça va rendre les Belges super speed. Remarquez, comme ça, leur équipe de foot va peut-être gagner la Coupe du Monde. Parce que j'ai vu leur match face au Canada, ils ont peut-être besoin d'un petit remontant. Et en fait, non, Apolline, vous ne le saviez pas, mais on détruit la cocaïne en la brûlant. Petit bout par petit bout, hein, parce que 90 tonnes de coke dans un incinérateur, je vous dis pas l'état des gens dans un rayon de 100 km autour de l'usine. Ça va chanter les lacs du Connemara en conduisant à 180 dans les villages. Voilà, on se met nous un petit remontant, hein, pour attaquer le dernier jour de travail avant le week-end. Un peu de coke, les lacs du Connemara. Ne me remerciez pas, c'est cadeau, c'est pour moi. Allez, à lundi.
Et voilà, du coup, ben, on est prêt pour le week-end là, grâce à vous, Arnaud. On est paré, Arnaud de Manche. Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les matins 7h20, 8h20 sur RMC et en podcast bien sûr. Il est 8h23, dans un instant le face-à-face, ça se passe sur RMC et BFM TV, contexte de forte poussée migratoire aux portes de l'Europe. Et mon invité, c'est le directeur de l'Office National de l'Immigration, Didier Lesky. De nombreuses questions à lui poser. Que sont devenus les migrants de l'océan Viking? Pourquoi les obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF, ne sont pas appliquées? À tout de suite.
RMC, 6h39,
Apolline Matin.